Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le nombre de cas confirmés de COVID-19 devrait atteindre 3 millions dans les jours à venir, alors que le bilan de la pandémie a dépassé 200 000 morts dans le monde samedi, selon l'agence Reuters. Plus de la moitié de ces décès ont été enregistrés aux États-Unis, 54 841 décès sur 964 937 infections selon l'Université Johns Hopkins. En Espagne, plus de 23 000 décès et en Italie, près de 27 000 morts. Les quatre pays européens les plus touchés par la pandémie, l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni, affichaient dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse, au moment où l'Europe commence prudemment à sortir du confinement. Nous y reviendrons dans un instant avec Claire Morin-Gibourg. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump n'a pas donné dimanche son habituel briefing coronavirus après les sarcasmes suscités par ses recommandations, ironiques a-t-il assuré après coup, sur l'injection de désinfectants dans le corps des patients. Il s'est contenté de lancer ses habituels pics contre la presse via Twitter, assurant que les rumeurs du limogeage du secrétaire à la santé Alex Azar n'étaient que fake news. Les médias désespèrent de créer une impression de chaos, a-t-il tweeté. Par ailleurs, la reprise des activités se prépare, comme dans l'État de New York, où certaines activités manufacturières et des chantiers pourraient reprendre après le 15 mai. En Afrique, où l'on déplore plus de 1400 décès et plus de 31 000 cas, l'État de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a pour sa part imposé le port du masque, une mesure qui entrera également en vigueur à compter du 1er mai en Afrique du Sud, quand les restrictions seront légèrement assouplies. La Guinée, où le COVID-19 progresse rapidement, a franchi hier la barre symbolique des 1000 contaminations, malgré l'instauration d'un couvre-feu et l'obligation du port du masque, ont indiqué les autorités sanitaires. Nous avons enregistré pour la seule journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche, 98 nouveaux cas qui font au total 1094 cas positifs et malheureusement 7 décès, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'organe officiel de gestion de l'épidémie, Sori Keira. Dans l'autre Guinée, la Guinée-Bissau, un premier décès lié au COVID-19 a été enregistré dimanche dans le pays, où l'état d'urgence décrété fin mars a été reconduit pour 2 semaines. La Guinée-Bissau a recensé 53 cas de contagion. Les forces de l'ordre de l'Union des Comores, l'un des rares États à ne pas avoir officiellement enregistré de cas, ont tiré des gaz lacrymogènes contre des fidèles réunis dans plusieurs mosquées en violation des mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus, a appris hier l'AFP de sources concordantes. L'opposition a dénoncé ce qu'elle a appelé l'intervention musclée des forces de l'ordre. En République démocratique du Congo, la dernière patiente atteinte du virus Ebola est sortie de l'hôpital dimanche à Beni, dans l'est du pays, où les autorités recherchent une autre patiente qui s'est évadée, ce qui retarde la fin de l'épidémie. La RDC a aussi enregistré au total 442 cas de COVID-19, dont 28 décès depuis le 10 mars, la plupart à Kinshasa. 5 cas ont été enregistrés dans le nord Kivu, dont 2 à Beni. Tous ont été déclarés guéris dans cette province. Et un premier cas a été confirmé à Lubumbashi. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Narwa Mabila. Kim Jong-un est vivant et en bonne santé, a indiqué le conseil spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in, minimisant la gravité des rumeurs sur la santé du leader nord-coréen. Ces rumeurs se sont multipliées depuis son absence remarquée lors de l'anniversaire de la naissance du fondateur.
suite de nos informations, en République démocratique du Congo, les autorités ont confirmé hier un premier cas de COVID-19 dans la ville de Lubumbashi. Il s'agit d'un Congolais de 58 ans venu de Nairobi en passant par la Zambie via la frontière de Kasongo-Balesa. Le point avec Narval Mabila.
Les patients et pris en charge par l'équipe des ripostes COVID-19 installée à côté de l'aéroport international de la Luano. L'information a circulé d'abord sur les réseaux sociaux 24 heures avant que les autorités n'annoncent la confirmation par les billets du ministre provincial de l'éducation Ars Kayumba.
Aux Katangaises et aux Katangais, mesdames et messieurs, le gouvernement provincial du Haut-Katanga porte à la connaissance de sa population qu'un cas de coronavirus vient d'être enregistré. Il s'agit d'un Congolais âgé de 58 ans qui est entré par la frontière de Kasumbalesa en provenance de Nairobi, passant par Dar es Salaam et la Zambie.
Au centre-ville, les Louchois se disent paniqués. Certains Louchois ont réagi au micro de VO Afrique.
Si déjà Kasumbalesa peut libérer une personne qui est déjà atteinte, vous voyez combien de gens qui étaient tout autour de cette personne qu'on n'a pas encore découvert. Mais ça sera grave. Les frontières, il n'y a pas vraiment la surveillance. Si réellement il y a les gens qui travaillent.
Parce que Corona est déjà chez nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est respecter toutes les mesures barrières.
Les mesures de quarantaine sont en vigueur dans la région depuis les premiers cas dans le pays le mois dernier.
Restez chez vous.
Lubumbashi, Narval Mabila, pour VO Afrique.
En Afrique du Sud, le ministre de la Police a présenté hier des excuses après des propos blasphématoires tenus par un policier contre des musulmans. Claire Morin-Gibourg.
C'est par un communiqué que le ministre Sélé a présenté ses excuses hier à la communauté musulmane sud-africaine suite à des remarques blasphématoires tenues par un policier durant l'interpellation de fidèles pour infraction aux règles du confinement. Le ministre a précisé qu'une enquête était en cours. L'incident s'est produit au début du Ramadan, samedi, dans la province du Mpumalanga, dans le nord. La police a arrêté 24 personnes. Le Conseil des théologiens musulmans d'Afrique du Sud a qualifié d'inacceptable l'attitude des forces de police et a fustigé les propos humiliants vis-à-vis du prophète Mahomet. Mais le Conseil a appelé les fidèles à respecter le confinement. Vendredi, ce sont 17 hommes qui avaient été interpellés pour violation du confinement lors d'un rassemblement religieux à Pretoria. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie de COVID-19. Un confinement très strict y est en vigueur depuis le 27 mars et tout rassemblement est strictement interdit.
Plusieurs des pays européens les plus touchés par la pandémie de COVID-19 ont vu hier leur bilan quotidien de morts en nette baisse. Plusieurs gouvernements s'apprêtent à annoncer des mesures pour sortir prudemment du confinement ou ont déjà assoupli la quarantaine. Les détails avec Michel Joseph.
Le Royaume-Uni, l'un des pays les plus sévèrement touchés en Europe, a observé des signes encourageants, selon son ministre de l'Environnement. Après avoir été gravement malade du coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson a regagné Londres hier soir pour reprendre les rênes du gouvernement. L'Italie et l'Espagne ont également enregistré des bilans fortement en baisse. Les autorités espagnoles ont assoupli leur confinement extrêmement strict et les enfants ont désormais le droit de sortir une heure par jour, même si les parcs restent fermés. En France, le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer mardi un plan de déconfinement avec notamment une réouverture controversée des écoles. La sortie du confinement reste un casse-tête planétaire. L'OMS affirme que seul un remède ou un vaccin pourront permettre de juguler le Covid-19 et a rappelé qu'il n'y a aucune preuve que les personnes guéries du coronavirus présentent des anticorps qui leur permettent de ne pas tomber malade une deuxième fois.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Togo, une étude publiée par le CNP, le patronat togolais, souligne que l'économie est sérieusement impactée par la pandémie du Covid-19. Le patronat propose notamment de différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, des taxes et des versements assimilés dus à l'État, ainsi
que des charges sociales. Le FMI a approuvé un prêt de plus de 363 millions de dollars pour la République démocratique du Congo dans le cadre de sa facilité de crédit rapide. Cela doit permettre de répondre aux besoins urgents de la balance des paiements du pays. Le crédit s'échelonne sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 0%. L'institution a aussi salué la réponse ferme de Kinshasa face à la pandémie du coronavirus. Au Tchad, le président Déby a rencontré vendredi les ministres concernés par l'application des mesures socio-économiques pour lutter contre les conséquences de la pandémie et les a enjoints d'accélérer leur mise en place. Les autorités ont promis de sanctionner les commerçants qui augmentent de façon vertigineuse les prix des denrées alimentaires, surtout en cette période de Ramadan.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
La FIFA débloquera 500 000 dollars pour chaque fédération africaine.
Oui, l'instance qui gère le football mondial débloquera tous les fonds opérationnels dus aux associations membres pour les années 2019 et 2020 dans les prochains jours. Première étape d'un plan de secours pour venir en aide à la communauté de football touchée par la pandémie du Covid-19. Cette mesure signifie qu'un plan d'environ 150 millions de dollars américains sera réparti entre les 211 instances nationales de gouvernance du football dans le monde. Concrètement, cela signifie que la FIFA débloquera 500 000 dollars américains pour chaque association membre dans les prochains jours, ainsi que tout droit restant pour cette saison.
La Fédération camerounaise de football n'est pas restée non plus insensible face à la situation difficile que traversent les clubs locaux en cette période de crise due au Covid-19.
L'instance fêtière du football camerounais vole au secours des joueurs, joueuses et encadreurs de clubs qui sont dans le dur depuis la suspension des compétitions sportives sur toute l'étendue du territoire camerounais. Ainsi, comme promis, une cagnotte de 40 millions de francs CFA, environ 61 000 euros, sera allouée à ces différents acteurs pour soulager leur peine. Cette somme constitue un appui financier destiné à 25 joueurs et encadreurs pour chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2 et à 20 joueuses et encadreurs pour chaque club féminin. Précisons que cet appui a été effectif grâce à la contribution des divers sponsors de la Fédération camerounaise de football.
En Tunisie, le championnat de football, à l'arrêt depuis le 15 mars, devrait reprendre vers la mi-juin.
De sources bien informées, la Fédération tunisienne de football travaillerait en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que tous les autres intervenants pour préparer un retour à la compétition, mais suivant des règles d'hygiène très strictes et sans présence de public. Hier, le ministre Ahmed Galoul a eu une réunion avec les présidents des différents sports collectifs. Un guide de précaution sera élaboré dans les prochains jours. Le retour des compétitions sportives pourrait avoir lieu au lendemain d'Al Eid El-Fitr ou lors du mois d'août.
Élisée, le football le reprend aussi en Corée du Sud.
Exactement, Idrissa. La saison reprendra le 8 mai prochain à huis clos dans le pays. La décision a été prise lors d'une réunion à Séoul entre les représentants des compétitions et les clubs. En attendant la reprise, les clubs ont été autorisés à reprendre les entraînements et à jouer des matchs amicaux entre eux. Par mesure de précaution, les joueurs n'auront pas le droit de parler entre eux ni même de serrer la main. Il faut noter que la K-League sud-coréenne devrait théoriquement débuter le 29 février dernier, mais la reprise a été finalement reportée en raison de l'augmentation des infections au coronavirus.
Chers auditeurs et auditrices, c'est Natou Camara, votre artiste, chanteuse, compositrice. Aujourd'hui, nous luttons contre l'invisible coronavirus, une pandémie qui ravage nos vies autour du monde. Pour sauver ma vie et celle des autres, je respecte le confinement et les distances de sécurité. Je prends mes mesures sanitaires, je me couvre le visage quand je tousse ou quand j'éternue. Je me lave les mains régulièrement et porte des gants lorsque je sors de chez moi. Mes chers amis, famille, fans de tous les jours, auditeurs et auditrices, pour mettre fin à cette pandémie, protégez-vous et protégez votre entourage. À très bientôt dans nos vies de tous les jours et dans les concerts. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La contamination de plus de 40 agents de santé testés positifs au nouveau coronavirus a provoqué une certaine panique dans les milieux sanitaires au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a dépassé plus de 1000 personnes infectées ce week-end. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La situation a obligé le Centre national de contrôle des maladies à fermer temporairement le laboratoire de test COVID-19 à Kanouf, dans le nord-est du pays, en raison du nombre élevé des agents infectés. Le ministre de la Santé, Osagie Ohanire, appelant les agents de santé à la vigilance. N'essayez pas de traiter les patients sans utiliser les équipements de protection individuelle adéquate. Ces conseils sont nécessaires à cause du nombre d'agents de santé testés positifs. Ils sont plus de 40 maintenant et les autres aussi ont été mis en quarantaine ces deux dernières semaines suite à leur exposition au virus. La puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria, la NLC, est aussi préoccupée par la situation des agents de santé qui sont quotidiennement en contact avec les malades. Son président Ayuba Waba. Il y a deux variantes ici à prendre en compte. La première est que plusieurs personnes s'y rendent dans les hôpitaux sans annoncer leur diagnostic réel. Quelqu'un peut venir et vous dire qu'il a le paludisme et il demande de le traiter pour le paludisme. Et en fin de compte, l'agent de santé va le faire. Le second problème est qu'il y a manque d'équipement de protection, particulièrement dans les centres de santé primaire, ce qui expose les agents de santé. And therefore, this exposes the health workers. Pour le gouvernement fédéral, le manque d'expérience chez certains infirmiers présentement en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 explique les cas de contamination au sein des agents de santé. Le coordinateur de la Commission nationale sur le COVID-19, Sani Aliou, évoque le début d'une formation sur la protection individuelle. Il faut savoir se protéger toi-même. Non seulement la question de la disponibilité des équipements de protection dans tout le pays vient en deuxième position, mais il faut assurer l'utilisation correcte des équipements. Parce que vous pouvez être contaminé si vous n'êtes pas formé et savoir comment porter des équipements. Faire face au coronavirus dans un pays d'environ 200 millions d'habitants avec un système de santé surchargé et dépourvu de tout, du personnel à l'équipement, pose un défi particulier. Le Nigeria espérait battre le COVID-19 et réduire le nombre de victimes en utilisant des mesures de confinement, en encourageant la distanciation sociale et une bonne hygiène personnelle, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Lagos reste l'épicentre de la pandémie dans le pays, avec 689 cas confirmés. Abuja, la capitale fédérale, compte 138 cas, Kano 77. L'augmentation des cas de contamination à Kano, la seconde ville la plus peuplée au Nigeria après Lagos, devient un autre défi des autorités fédérales. Quelques 5000 agents de santé, selon la Commission nationale sur le COVID-19, sont présentement sur le terrain pour faire face aux malades du COVID-19 au Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a décrété l'état d'urgence sanitaire de 21 jours à compter du week-end sur toute l'étendue du territoire national. Pouvoir est donné aux autorités en charge de la sécurité sanitaire de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Il est connu que le virus du COVID-19 se déplace surtout par le mouvement des populations. Ce décret devrait donc permettre de restreindre ou d'interdire des libertés individuelles ou collectives en vue de freiner la propagation de la pandémie au Tchad. À ce titre, mandat est donné aux autorités sanitaires de prendre des mesures allant de l'interdiction aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve de déplacements strictement indispensables à la réquisition de tout bien et service nécessaire à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Tout contrevenant sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois.
Même si les autorités ne le disent pas officiellement dans les textes qu'ils éditent, en réalité, ces mesures traduisent inévitablement une situation de confinement général.
Docteur Jongyang Dibam, juriste publiciste, pour lui, ce décret formalise une situation de fait qui existait déjà dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.
Les mesures qui ont été prises avant ce décret installaient déjà le Tchad dans une situation d'état d'urgence de fait. Lorsque nous sommes dans une situation exceptionnelle, il y a toujours des mesures exceptionnelles qui doivent accompagner cette situation-là en vue de contenir le péril à la demeure. Tout de même, il faut rappeler que ces mesures-là ne doivent pas faire l'objet d'une carte blanche qui est donnée à ces gens-là de commettre des exactions ou autres infractions sur la population civile.
L'ancien ministre de la Justice et porte-parole du parti au pouvoir, Maître Jean-Bernard Padaré, rassure qu'il ne peut y avoir de débordement.
Je dis avec ce décret-là, tout débordement il sera sanctionné. Ce décret vient rassurer la population. Si on découvre qu'il y a par exemple une pandémie au niveau de telle province, le gouverneur de cette province peut prendre des mesures pour dire vous ne pouvez pas circuler de telle période à telle. C'est ça qui nous donne une base légale. Moi, j'applaudis de demain ce décret, contrairement à ceux qui ont peur.
Certains citoyens estiment que ce décret sème une certaine confusion.
Tous les gens pensent aujourd'hui que c'est un confinement, alors qu'en réalité, le gouvernement, dans son esprit, veut simplement justifier un vide juridique qu'il a créé lui-même.
C'est un confinement qui ne dit pas son nom. Confiner tout le monde, mais comment est-ce que les petites familles pauvres là peuvent vivre? Sinon, les gens vont mourir plus de faim que de coronavirus. Surtout qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec le ramadan. Ça devient vraiment très sérieux.
Les locataires, par exemple, un locataire ne sort pas, il ne fait pas ses business. Comment il peut payer le loyer?
Maître Jean-Bernard Padaré clarifie les zones d'ombre de ce document.
Le décret prévoit des hypothèses. Si la situation venait à s'aggraver, sur toute l'étendue du territoire national, on peut maintenant prendre un acte en visant ce décret pour confiner la population. Mais s'il n'y avait pas ce décret, on allait évoluer dans l'illégalité.
Selon les autorités médicales, à ce jour, le Tchad enregistre au total 46 cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 15 patients guéris et 0 décès. André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, les mesures de confinement à la suite du coronavirus ont affecté le fonctionnement de la presse écrite et beaucoup de journaux de la place ont disparu. Ceux qui résistent encore font face à d'énormes difficultés pour paraître et distribuer leurs journaux sur le marché. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Si l'ensemble des médias congolais fonctionne avec beaucoup de difficultés, tant dans la collecte que la diffusion de l'information, le calvaire de la presse écrite est plus grave. Les kiosques à journaux ont quasiment disparu et par manque de véhicules, très peu de journalistes arrivent encore à écrire dans leurs colonnes. Patrick Sébastien Zébin, directeur du journal La Griffe.
Un numéro, c'est pour qu'on soit également présent, parce que il y a nos lecteurs qui ont disparu, qui n'ont plus la matière pour lire, même s'ils sont en confinement, il faut qu'ils lisent quand même. Bon, nous avons fait, même si c'est réduit, bon, on a mis un numéro sur le marché. Bon, c'est difficile de faire le chiffre parce qu'avec le confinement, nous n'avons que 3 jours de marché.
Aux Dépêches de Brazzaville, l'unique quotidien du pays, les mesures ont été prises pour maintenir la flamme. Les bureaux de Brazzaville, de Kinshasa et de Paris fonctionnent, mais avec des effectifs réduits, explique Émile Ngankama, le directeur des rédactions.
Et donc les dépêches continuent de paraître sur les 5 jours de la semaine, de lundi à vendredi, avec la nuance qui est que la version papier du journal est désormais publiée le lundi et le jeudi. Un petit sacrifice a été fait aussi, notre journal de samedi ne paraît plus, on l'a suspendu pour l'instant. Habituellement, quand vous venez aux dépêches, vous voyez ça grouille du monde. Hein. Mais là, on a réduit au maximum nos équipes.
À 78 ans d'existence, le bi-hebdomadaire La Semaine africaine est le plus vieux journal du pays. Malgré le soutien que lui apporte l'Église catholique, Albert Mianzoukouta, son directeur, reconnaît que les temps sont vraiment durs.
pas physiquement. Demain, nous sommes sur la place, mais après ce numéro, quand est-ce que nous pourrons encore paraître? Il y a pas mal de problèmes qui se posent, notamment d'impression, du rythme des équipes de travail à l'imprimerie qui nous abritent. Et donc, ça fait que vraiment, ça rend le travail à peu près compliqué quoi, pour nous.
Dans les grands carrefours, comme ici à Makelekele, une vendeuse de journaux ne s'en plaint vraiment pas.
Je vends trop bien. Il y a beaucoup de clients. Les gens aussi sont habitués de venir. Je n'affiche même pas beaucoup de journaux à cause de la distance aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait l'attroupement.
Le Congo-Brazzaville a atteint ce week-end le cap de 200 cas confirmés, dont plus de la moitié se trouvent dans la capitale. Selon les autorités, 19 personnes ont été guéries et 8 sont décédées. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Burkina Faso, des toilettes non fonctionnelles, des malades abandonnés et une insalubrité révoltante. Ces dernières semaines, les services des centres de santé du Burkina sont sous le feu des critiques. Des malades du Covid-19 ou leurs proches parlent de conditions d'hospitalisation difficiles, notamment à Tengandogo, le principal centre de prise en charge des malades du Covid-19 à Ouagadougou. Des accusations exagérées selon les autorités qui disent mettre les bouchées doubles pour relever le défi de la pandémie. De Ouagadougou, reportage de Lamine Traoré.
Les mauvaises conditions d'accueil et d'hospitalisation ne sont pas une nouveauté au Burkina. Les patients et leurs accompagnants étaient déjà habitués à l'insalubrité et aux conditions difficiles dans les hôpitaux du pays. Mais il a fallu la pandémie du Covid-19 pour que la situation dans les centres de santé fasse l'objet de débats nationaux. L'hôpital de Tengango, l'hôpital de référence à Ouagadougou, a été choisi pour traiter les cas de Covid-19 dans le pays. Mais des malades atteints de la pandémie, admis dans cet hôpital et leurs proches, dénoncent des conditions difficiles. Nous les avons rencontrés et ils ont accepté de raconter, sous anonymat, leur galère.
Les toilettes, ça va pas. La nourriture, les conditions sont pas bonnes. Comment les adultes, femmes et garçons utilisent les mêmes toilettes?
Les toilettes sont trop sales. Et puis, l'eau ne vient pas partout.
Ils m'ont dit non de patienter. Après, ils me disent que leur appareil de dialyse est réservé pour un certain nombre de gens.
Ce jeune homme a perdu son papa à Tengango. Ces derniers jours, sa vidéo a fait le tour de la toile.
Et donc, le papa ne pouvait pas avoir accès à leur appareil de dialyse. Il dit, mais vous proposez quoi? Ils disent d'appeler la clinique Bombe de Galade. Les médecins de Tengango me disent que la clinique Bombe de Galade refuse maintenant de recevoir le papa. Il dit, mais vous proposez quoi? Ils disent qu'en tout cas, c'est à nous de voir.
À Tengandogo, les soignants disent faire tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper des malades malgré le manque de matériel. Ici, on reconnaît les plaintes. Pierre Kabouré est médecin à Tengandogo.
Pour la nourriture, la qualité du repas s'est beaucoup améliorée. Il y a quelques semaines, je ne pouvais pas vous dire que le repas était de bonne qualité.
Professeur Adama Sanou, directeur des services médicaux de l'hôpital de Tengandogo, lors d'une visite des journalistes, déclarait ceci.
Nous avons tout organisé pour qu'il y ait des rondes, mais personne n'est parfait. Il y a peut-être des situations où c'est arrivé. Donc s'il y a des patients qui se sont plaints, nous essayons d'améliorer les conditions.
Il n'y a pas que Tengango. La clinique Les Gênés est l'une des cliniques mises à disposition pour la prise en charge des malades du Covid-19.
Au Zénith, au début, on m'a mis dans une chambre unique.
Cet agent de santé malade du Covid-19 est aujourd'hui guéri, se souvient de son passage dans ce centre.
Ils sont venus autour de 22h, me dit non que je dois quitter à l'aider le Covid. J'ai dit mais pourquoi? Que non, que ici c'est pour des gens qu'on a réservés. Ils sont revenus encore autour de 23h pour me dire de quitter. Le matin, ils sont venus avec le petit déjeuner prendre la conscience et ils m'ont ramené dans le pavillon là où il y avait deux personnes et je suis resté là-bas.
Au regard de la pression et la grosse polémique sur les réseaux sociaux, le président du FASO s'est rendu à Tengango.
Nous devons faire la part des choses entre les débats et les propositions qui nous font avancer.
Roch Kabouré.
La critique facile qui également est opérée au quotidien pour mettre à mal le travail qui est fait ça et là.
À la date du 24 avril, le Burkina comptait 629 cas de Covid-19 avec 41 décès. Et beaucoup se demandent si les services de santé du pays pourront prendre en charge les critiques et offrir enfin un cadre propre et accueillant pour les patients. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seluga et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.